bonheur, c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
C'est la première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière, parce que celle-là, on va la gagner.
Ouais, pour arrêter de se faire exploiter, la faute.
Ont fait, ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fous, vous comprenez? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits et les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais ?
La révolution !
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi ?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors, les types de la radio sont avec nous ?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info ?
Bon, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires.
Bah allons-y, arrêtons tout pour de bon.
Dans mon lit, les 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café, la radio, trop c'est trop, les midis, mes parents sont rentrés.
Bonsoir, il est 19h02, nous sommes bien toujours sur Radio Canu et c'est l'heure du Canu Info pour vous.
Alors à l'international, on va faire un point G20 et on abordera ensuite la situation en République centrafricaine pour ensuite parler de la manifestation géante qu'il y a eu lieu en Turquie et nous finirons pour cette rubrique avec une affaire vaticanesque. Au national, on parlera de l'échec du plan d'Hollande 500 000 formations et également de la suppression par le gouvernement des APL ainsi que de la santé des femmes aujourd'hui. Pour passer par ce sacré hulot, l'écologie, les affaires et Flamanville, avant de s'arrêter sur le fait qu'un délégué syndical CGT a été licencié pour avoir mangé un morceau de fromage. Nous vous raconterons également que les constructifs seront bientôt exclus et on s'attardera un peu sur l'affaire Traoré où on verra qu'une contre-expertise confirme la thèse de la mort par asphyxie. On finira la rubrique nationale par l'attaque d'une association d'accueil de mineurs isolés étrangers par des FAF à Montpellier. Et au local, on aura le plaisir de vous présenter un collectif de soutien à un groupe d'Albanais SDF qui est harcelé par la police à Lyon 3e. On évoquera un enfoiré qui s'appelle Kim Field et qui est un président de la métropole, avant de finir par d'autres enfoirés municipaux qui détruisent une œuvre d'art en la confondant avec du Schmitt. Allez, c'est parti.
Et la presse allemande est en émoi après le sommet du G20 qui avait lieu à Hambourg les 7 et 8 juillet dernier. Le sommet, devenu gouffre béant dans lequel ont basculé ordre public et tranquillité dirigeante, a en effet donné lieu à de formidables émeutes, prouvant ainsi qu'il n'était pas mort le joli temps du pavé et du Einsweidreich et ce Polizei. Les discussions du G20 ont elles-mêmes été un échec, renforçant le dépit marqué de toute une presse conservatrice et libérale. On attendait avec impatience l'arrivée de Trump dans le foutoir. Les uns et les autres ont même commenté les plus infimes détails, poignées de main, moments de malaise trumpesque, des rencontres bi- ou trilatérales avec Macron, Merkel ou encore Poutine, mais n'ont prévisiblement pu que constater que les divergences sur les accords de Paris ne seraient pas résolues par un coup de baguette magique. Macron, spécialiste du secouage de bras en mousse, a bien annoncé un nouveau sommet sur le climat et fait les gros yeux aux USA, désignés comme isolés. Mais les divergences restent là et les différentes puissances impérialistes n'ont à proposer que de tels billevesées, donc sommet, objectif minable au regard de l'urgence, ou un simple business as usual dans un monde toujours plus soumis aux destructions provoquées par le capital. Trump peut donc, en toute quiétude, continuer à exploiter gaz et pétrole de schiste et à niquer consciencieusement tout ce qui reste de vivable sur cette planète, non sans piétiner au passage la classe ouvrière états-unienne et mondiale. Pour le reste, toutes les discussions ont accouché de souris. L'accord sur le commerce se contente de rappeler le rôle central de l'OMC et condamne mollement le protectionnisme. Aucune avancée n'a été faite sur le dossier ukrainien. Quant à l'Afrique, elle a donné lieu à une résolution assez ahurissante qui explique benoîtement que les pays signataires, je cite, encourage le secteur privé à saisir les opportunités économiques africaines en soutenant une croissance durable et la création d'emplois. Cet encouragement au pillage impérialiste est en vue comme un moyen de faire cesser les migrations, oui oui. Le reste de la déclaration consiste en formules creuses et vœux pieux. En même temps, quand on voit que les dirigeants impérialistes sont capables d'annoncer qu'il faut plus de rapines impérialistes pour aider le continent africain, on se dit qu'il serait peut-être temps qu'ils arrêtent de se pencher sur l'Afrique. Mais il faut quand même dire que ça rapporte, cette petite entreprise de saccage colonial, depuis quelques siècles que ça dure. Plus réjouissantes lors de ce G20 ont été les animations proposées par les opposants à son déroulement. L'enfer avait été promis et là, en revanche, la promesse a été bel et bien tenue. À tel point que police et gouvernement allemand ont semblé pris de panique. Le ministre de l'Intérieur, Thomas de Maizière, descendant de gens qui ont fui donc la révocation de l'édit de Nantes au XVIIe siècle, si ça vous intéresse. Donc le ministre de l'Allemand, le ministre intérieur, Thomas de Maizière, c'était le petit moment culture G. Je reprends, troisième fois. Le ministre de l'Intérieur, Thomas de Maizière, a ainsi comparé les émeutiers à des nazis. Suivi en cela par le maire SPD de Hambourg, ça l'a pas empêché, donc ce dernier, le maire de Hambourg, de parler sans sourciller de la plus grande opération de police depuis la guerre. Voilà, voilà. La polémique enfle en Allemagne.
C'était le point Godwin, mais c'est pas ma faute.
C'est les sécheurs politiciens allemands qui apparemment ont passé le week-end à parler de nazisme. Voilà, bon, on s'occupe comme on peut. Et la polémique enfle donc en Allemagne, puisqu'il faut dire que la résistance pendant plusieurs heures de manifestants et d'habitants du quartier de Schanzenviertel à une police équipée de blindés et surarmée a donné des sueurs froides à quelques têtes à képi. Un responsable de la police a, sur la chaîne nationale ARD, directement accusé le maire d'avoir fait de la protection des participants du sommet un objectif prioritaire au détriment donc des combats de rue dans lesquels se sont... peut distinguer finalement les policiers allemands, donnant lieu à quelques vidéos gags que je vous recommande d'aller voir sur Twitter. Les politiciens s'affrontent donc en donnant dans une espèce de surenchère, parlant de guerre civile, évoquant les 500 flics martyrs, sans mention des centaines de manifestants eux-mêmes blessés, relayés par une partie de la presse qui donne dans le délire. L'inénarrable organe russe de propagande et d'info bidon Sputnik News a ainsi expliqué dans un article comment des anarchistes auraient tenté depuis un toit d'un squat d'abattre un hélico de la police avec des fumigènes. En effet, l'anarchiste allemand, doté d'une force colossale, plus dopée que l'ensemble des équipes olympiques de natation de la RDA, peut projeter son petit flambeau rouge jusqu'à 2 km, lui procurant ainsi la létalité d'un lance-roquettes. On rigole, mais la répression est tout de même costaud et il y a bien lieu de penser que les 150 camarades arrêtés vont servir d'autant d'exemples. Il est à noter que certains ont été arrêtés dans des squats par les forces antiterroristes, équipés de fusils d'assaut, laissant craindre une justice d'exception pour les interpeller. Le bilan politique de ce G20 est donc difficile à tirer de notre côté. Les forces démontrées sont pour le moment surtout tactiques et cela reste un contre-sommet avec tout ce que ça peut avoir de rituel. Reste sans doute à structurer plus durablement des organes politiques internationaux pour faire flipper la bourgeoisie plus d'un week-end et pour sans doute abattre des centaines d'hélicoptères avec autant de fumigènes surhumains.
Et oui, du coup, bah, pendant le G20, comme tu le disais, les chefs d'État réunis ont encouragé le secteur privé à l'investir en Afrique. En revanche, ce qui se passe aussi, c'est que les États continuent d'intervenir et de semer la misère un peu partout. Les médias en parlent pas beaucoup, mais depuis plus de 6 mois en République centrafricaine, il y a de nouveau des violences très importantes de groupes armés. Donc ces attaques meurtrières font de la République centrafricaine un pays particulièrement instable, acculant les populations à toujours plus de misère et aussi du coup à des migrations et de l'exil. C'est toujours de toute façon les mêmes qui payent ces guerres-là. Alors ce jeudi, il y a eu des manifestations, notamment dans les villes de Bria et Bambari, pour dénoncer les agissements de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine, la MINUSCA. Donc, c'est la mission de l'ONU qui est déployée en Centrafrique. Les manifestants reprochent des exactions des militaires et surtout des contingents marocains et mauritaniens qui ont des connivences avec certains groupes armés, comme ça arrive souvent. Pour rappel, depuis 2003, que ce soit l'armée centrafricaine, les contingents étrangers ou les groupes armés qui contrôlent encore aujourd'hui une majeure partie du territoire, ils sont tous mis en cause, notamment devant la Cour pénale spéciale, pour des exactions commises donc, par les soldats. Donc ça fait 15 ans en fait, hein, que les centrafricains subissent les exactions des militaires de l'ONU qui sont censés les protéger. Et les Français sont loin d'être en reste. Pour rappel, de décembre 2013 à octobre 2016, plus de 1500 soldats français s'étaient déployés en RCA pour l'opération Sangaris, dont le nom ne devrait pas vous être inconnu, surtout si vous nous écoutez régulièrement. Donc à la suite de cette opération, il y a 16 militaires français qui ont été inculpés pour des viols sur des enfants. On imagine que le phénomène est d'une ampleur bien plus importante quand on sait à quel point ce genre de crime est caché. On comprend donc bien la colère des centrafricains qui sont descendus dans la rue jeudi dernier. Mais bien sûr, à cette colère, le gouvernement français a répondu très vite, hein, puisque une conférence de presse a été donnée vendredi, donc le lendemain des manifestations. Et je cite donc, « La France soutient le renforcement des moyens de la MINUSCA et vient à cet effet de déployer une unité de 7 drones au sein de la mission. » Vont venir de nouveaux déploiements de forces militaires. Donc au moins c'est clair, hein, longue vie à la France-Afrique. Alors Sangaris, c'était la 7e intervention française en Centrafrique depuis l'indépendance en 1960, ce qui fait un bon score quand même. Macron est bien en marche pour la 8e. Donc courage aux copains, copines là-bas et surtout à celles et ceux qui sont exilés et ils sont très nombreux depuis les années 2000 et on espère qu'ils réussiront à reconstruire une vie ailleurs. Voilà.
Alors pour continuer l'international, on va terminer par la Turquie. On va continuer par la Turquie. Donc si c'est passé récemment, c'est que le chef d'opposition turc a bouclé dimanche par un rassemblement de plusieurs centaines de milliers de personnes à Istanbul sa marche pour la justice, qui a été donc partie d'Ankara le 15 juin afin de protester contre l'incarcération d'un mule sa formation. Donc, je cite, il parle « Nous briserons les murs de la peur », a déclaré à la foule Kemal Kılıçdaroğlu, le chef du parti républicain un du peuple, CHP, parti kémaliste social-démocrate, au terme de ses 25 jours de marche. Et, donc, d'où est partie cette marche? La marche pour la justice a donc démarré au lendemain de la condamnation à 25 ans de prison d'Enis Berbegoğlu, homme de loi et journaliste. Ce membre du CHP est accusé d'avoir livré des informations confidentielles à la presse au sujet de l'appui des forces turques aux rebelles syriens. Cette condamnation a été le déclencheur et non la cause de la marche. L'opposition turque dénonce aussi une dérive autoritaire du chef de l'État, notamment depuis le feu vert donné par un référendum en avril, un renforcement de ses pouvoirs et depuis les purges effectuées après la tentative de putsch il y a un an. Ainsi, environ 50 000 personnes ont été arrêtées et plus de 100 000 fonctionnaires limogés ou suspendus de leurs fonctions. La police turque a encore arrêté mercredi 8 militants des droits de l'homme, dont la directrice d'Amnesty International Turquie. Donc le chef d'opposition, qui a parcouru près de 450 km sans un signe partisan et avec justice comme seul mot d'ordre, a rallié une foule croissante tout au long de sa marche, attirant des milliers d'opposants au président Erdogan. Cette initiative sans précédent en Turquie est la plus grande manifestation de l'opposition depuis le mouvement contestataire de 2013. Selon le CHP, plus de 2 millions de personnes étaient réunies dimanche soir. Le gouvernement a considéré cette marche avec mépris. Le Premier ministre Binali Yildirim a même estimé vendredi qu'elle commençait à devenir ennuyeuse, que cela devait prendre fin après le rassemblement. Le président Erdogan, quant à lui, a carrément accusé le chef d'opposition de se ranger du côté des terroristes et l'a même mis en garde contre une possible convocation judiciaire. Ce dernier a annoncé de son côté que cette marche n'était qu'un commencement et que d'autres suivront. Au vu de la folie du personnage, on craint une vive réaction de la part d'Erdogan et un renforcement des répressions sur la population turque. Sans fantasmer cette opposition social-démocrate, on souhaite un grand courage à tous les opposants à ce néo-dictateur.
On est toujours sur Radio Canu et petite alerte, avis aux âmes sensibles, la prochaine chronique, si vous écoutez Canu Info en famille, vous pouvez pendant 3 minutes, c'est le temps de la chronique, baisser le volume de votre radio et le rallumer juste après. C'est parti pour 3 minutes.
Mais rassurez-vous, là sans surveille.
Scandale au Vatican, justement, c'est les tabloïdes et c'est vrai que c'est du mainstream. Scandale au Vatican. Les hosties sacrées, petites rondelles sujettes aux hémorroïdes divins, sont sous le feu des projecteurs. Ajoutons un nouveau chapitre à la Bible qui s'intitule « Nuit torride au Vatican », rédigé par le grand prophète Bunga Bunga. Loin d'être une tempête dans un bénitier, cette révélation est un orage sous la soutane qui modifie en profondeur la théologie catholique et restera longtemps dans les annales.
Car si l'on savait que les voies du Seigneur sont impénétrables, c'est avec stupre que nous découvrons que les voies de ses serviteurs le sont beaucoup, beaucoup moins. En effet, à la fin juin, dans un appartement romain de l'ancien palais de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, c'est le nouveau nom charmant du truc qui s'appelait l'Inquisition avant, et suite à la plainte de voisins qui n'en pouvaient plus du bruit régulier, de nombreuses allées et venues nocturnes, des policiers ont débarqué en pleine partouze, trouvant, selon les sources les plus timorées, une dizaine d'hommes se livrant aux joies de la chair et de la drogue. À vous, auditeurs pieux de Radio Canu, fidèles catholiques, nous pouvons vous révéler toute la vérité. Ce n'est pas une dizaine d'inquisiteurs qui rendaient hommage à l'antique Sodome de Mésopotamie, mais bien 13 curés qui se taquinaient tendrement le fondement. Et pour le pape, réputé aussi infaillible que le Viagra, plongé dans les scandales de pédophilie partout dans le monde, quel anus horribili. Ce dernier, car les derniers seront les premiers, nullement miséricordieux, a envoyé l'amateur de pénis au couvent et demande la démission du cardinal Coco Palmiero, ça c'est vrai, le supérieur de l'inquisiteur des parties fines, étant donné que tous les mecs sous ses ordres ont une furieuse tendance à appliquer à la lettre les préceptes de Jesus, à savoir « aimez-vous les uns les autres ». Et une fois encore, cette église catholique rétrograde et moyenâgeuse a fait étalage de son homophobie pathologique en condamnant ce qui ressemble au meilleur côté de la vie presbytérienne. Anecdote, le pape, dégoûté d'abord de ne pas avoir été invité, puis quand ses services l'ont mis au courant, se serait écrié « Quoi ? Il n'y avait pas d'enfant ?» avant de rejoindre la curie et de relire le passage où l'on met des clous à Jésus-Christ.
Sex, drug and God.
Merci, on va passer au national.
Et vous êtes toujours sur Radio Canu. Vous pouvez remonter le son. Et oui, au national, donc on va revenir sur le magnifique plan 500 000 formations que Myriam El Khomri, célébrissime et sacrificielle ministre du Travail de Hollande, promettait en 2015. Un plan censé donc réduire drastiquement les chiffres du chômage. Alors, cette opération entendait inverser la courbe du chômage avant la fin du mandat de Hollande. Alors, en réalité, de manière fictive, ce genre de mesure peut ponctuellement effectivement inverser la courbe puisque les demandeurs d'emploi sortent de la catégorie de chômeurs lorsqu'ils sont en formation. Donc, coût de la séance maquillage, 1,316 milliards d'euros. Et ce que révèlent en réalité les résultats donc, de cette opération, c'est que le nombre de stagiaires ayant trouvé un emploi à la suite de la formation n'a absolument pas augmenté, puisqu'il a fléchi de 3,5%. Et ce sont les demandeurs d'emploi qui possédaient déjà une qualification qui ont réussi à trouver un emploi à la suite de leur formation. Autant dire que c'était une mesure tout à fait cosmétique, hein, contrairement à son coût qui lui était bien réel. Et ça montre bien une chose, c'est que l'État, il veut nous faire croire que les chômeurs sont responsables de leur propre situation, parce qu'ils manqueraient par exemple de qualifications.
Ou qu'ils sont feignants.
Et ce que l'échec de ce plan nous montre, c'est tout l'inverse. Peu importe d'être formé ou non, les patrons, eux, ce qu'ils cherchent, c'est une main-d'œuvre flexible, corvéable à merci, interchangeable, et surtout qui ferme sa gueule. Donc en réalité, plus t'es formé, moins tu corresponds à ces critères-là. Donc plutôt que de faire peser la responsabilité du chômage sur l'État, l'État devrait peut-être se concentrer sur ceux qui sont censés nous embaucher. À moins que, mais arrêtez-moi si je suis complètement parano, les chômeurs ne soient qu'une variable d'ajustement pour les capitalistes.
Oh non, quand même pas.
Oh, t'exagères.
Et oui, la chasse aux pauvres est ouverte et le gouvernement veut maintenant supprimer les APL et inventer le logement à durée déterminée. Promesse de campagne passée inaperçue, le Parlement devra d'ici l'automne plancher sur la proposition d'un bail mobilité pour les travailleurs précaires. Dans la lancée de sa sortie à propos des gens dans les gares qui ne sont rien, Macron invente le logement à durée déterminée, histoire de bien faire douiller ses petits riens. Le bail mobilité sera réservé aux travailleurs en CDD et en intérim. Il est bien entendu présenté comme une mesure permettant de se loger plus facilement. Les locataires devront ainsi, en plus de devoir faire face à des conditions de vie difficiles, se soucier de trouver de nouveaux appartements avant la deadline. C'est ici la fameuse flexibilité tant désirée par les patrons qui est poussée à l'extrême. Les travailleurs ne pourront pas refuser un emploi, même CDD ou intérim, à des dizaines, voire des centaines de kilomètres sans risque de finir à la rue. pour le patron, c'est tout bénef. Les travailleurs mobiles, totalement dépendants, qu'on peut faire venir en fonction des besoins, puis dire au revoir et virer de chez eux. Du côté des chômeurs, il deviendra certainement encore plus difficile de se loger. Voilà, le logement a duré à déterminer. Parallèlement, le gouvernement Philippe a eu une autre super idée, s'attaquer à l'APL. Sobrement nommée aide publique inactive, les APL, je cite, coûtent cher et ne produisent pas assez de résultats selon Philippe, dont on ne sait pas exactement comment il va s'y prendre, mais qui veut retirer au bas salaire le petit bonus qui permettait de se loger tout de même. C'est sûr que pour les capitalistes, ces aides ne rapportent pas même... Excusez-moi. C'est sûr que pour les capitalistes, ces aides ne rapportent pas, même si l'intégralité de ces aides finissent sur le compte des propriétaires immobiliers qui en profitent pour spéculer sur des loyers de plus en plus élevés. De ce point de vue, changement de stratégie. Le gouvernement qui regrette que ces aides concernent un trop grand nombre de personnes, assistées bien sûr et pas précarisées par le système absurde, y va franc du collier. La communication insiste bien sûr sur le fait que ces aides inactives et improductives coûtent cher, ne rapportent rien. La faute aux assistés, les caisses de l'État s'approvisionneront sur l'argent des plus démunis. C'est donc ça son projet.
En marche.
Arrière, on crève.
Toujours national, le Haut Conseil à l'égalité a publié vendredi dernier un rapport sur l'accès aux soins des femmes en situation de précarité. Donc qui est assez intéressant en donnant quelques chiffres. Donc, les femmes représentent 57% des bénéficiaires du revenu de solidarité active et 82% des emplois à temps partiel, ainsi que 70% des travailleurs pauvres qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc, le rapport présente des données sur les impacts physiques et psychologiques de cette précarité. Donc, ce que je viens de dire revient à dire que les pauvres sont principalement des femmes. Le risque accru de maladies cardiovasculaires, d'abord, selon le Haut Conseil à l'égalité, les femmes ouvrières présentent en moyenne un taux de mortalité 3 fois supérieur aux femmes ayant exercé la fonction de cadre ou une profession intellectuelle supérieure. Ce taux de mortalité est notamment lié aux maladies cérébrovasculaires. Un risque qui serait lié à l'accumulation de facteurs, le manque de ressources et de suivi médical, et la consommation de tabac et d'alcool et une alimentation de moins bonne qualité que les personnes qui ont des revenus leur permettant d'accéder à des biens de consommation de la bonne nourriture, tout simplement. Les troubles psychologiques et les affections psychiatriques multipliées. On a 21% de femmes contre 7,5% d'hommes qui seraient concernés par les troubles anxieux. Les états de stress post-traumatique, l'anxiété généralisée et les troubles de l'adaptation. Et ces troubles sont accentués dans le cas des femmes sans domicile fixe et des chefs de famille monoparentales. Donc on imagine bien que la charge d'une famille avec des ressources la plupart du temps inférieures aux hommes est très difficile et prédispose aux détresses psychologiques et autres épisodes dépressifs. De manière plus générale, le rapport souligne que ces troubles psychologiques des femmes en situation de précarité sont liés à l'absence de soins, aux conditions précaires de logement. Il y a aussi le manque de suivi cancérologique et gynécologique, puisque le rapport explique que plus une femme est pauvre, moins elle participe au dépistage. 52,4% des femmes ne disposant pas d'une complémentaire santé privée n'ont pas réalisé de dépistage par frottis cervico-utérin dans les 3 dernières années. À l'inverse, 73% des femmes qui ont cette complémentaire santé privée l'ont fait. Et ça s'explique assez simplement par la rareté des médecins spécialistes en général et des gynécologues en particulier qui sont conventionnés secteur 1, dont le coût est entièrement remboursé. Donc pour ces visites médicales, ces dépistages qui empêcheraient pourtant quelques 1000 décès chaque année en France d'un cancer du col de l'utérus. Concernant les suivis médicaux, le rapport signale aussi les inégalités en matière d'accompagnement des grossesses. Parmi les femmes qui n'ont pas déclaré leur grossesse au premier trimestre, 20% bénéficient de la couverture maladie universelle ou de l'aide médicale de l'État et 39% n'ont pas de couverture sociale. Et cette situation augmente bien sûr l'incidence des pathologies périnatales, notamment le retard de croissance intra-utérine ou le risque de morbidité néonatale. En bref, la sécurité sociale minimale pour les personnes qui n'ont pas les moyens de se payer une complémentaire santé privée a des impacts spécifiques sur les femmes en termes de santé. Et il y a aussi les maladies professionnelles, puisqu'entre 2000 et 2015, les maladies professionnelles ont connu une hausse de 155% chez les femmes, qui s'explique par une augmentation de la déclaration par les médecins, qui sont plus vigilants, et par une meilleure reconnaissance des maladies des femmes, et par la concentration des femmes sur certains types de postes, notamment avec beaucoup de manutention, puisqu'elles sont les plus confrontées aux troubles musculo-squelettiques qui représentent la majorité des maladies professionnelles reconnues.
Et du coup, toujours en national, on va parler un petit peu de Nicolas Hulot. Et c'est pas là. Du coup, le canard...
Waouh.
Du coup, le canard révélait la semaine dernière qu'en matière d'affaires, le ô combien emblématique ministre de l'écologie n'est pas en reste. Alors, en effet, si on savait que le très désiré Nicolas Hulot n'était pas révolutionnaire, on apprend qu'il manie la confusion et le mélange des genres avec une facilité déconcertante. Alors, pour comprendre, Nicolas Hulot détient 99,9% et est l'unique salarié de la société Éol Conseil.
Qui c'est qui a les 0,1%?
Je sais pas, j'ai pas cherché.
Une autre partie de
sa
lui.
Sa femme peut-être. Et dont l'objet, donc cette société Éol Conseil, est la promotion de l'image et de la personne de Nicolas Hulot. Ah. Donc société qui a dégagé entre 480 000 et 715 000 euros de chiffre d'affaires annuel depuis 2000, hein, ce qui est un bon score, juste pour faire de l'autopromotion, on dirait du Macron.
Pour se faire mousser quoi.
Et avec 99,9% des parts, ça fait quand même un beau pactole pour le ministre de l'écologie. Alors, d'où vient ce beau magot? C'est là que ça devient cocasse. Donc, Éol touche 5,25% de royalties sur les droits dérivés des produits Ushuaïa.
Ah, c'est du 2 ans,
hein? Oui, oui, vous savez. C'est ces gels douches qui sentent bon la nature, mais bourrés de parabènes et autres perturbateurs endocriniens. Des produits d'ailleurs classés sur liste rouge par Greenpeace. Mais bon, comme la marque a été créée par TF1 grâce au succès de l'émission éponyme de Nicolas Hulot, ce dernier est bien obligé d'accepter tous ses gros sous. Pour avoir un ordre d'idée, en 2005, l'ensemble des produits étiquetés Ushuaïa a rapporté 100 millions d'euros. Bon, donc bien sûr, la veille de sa nomination, Hulot a convoqué une assemblée générale extraordinaire de son entreprise. Le gérant s'est transformé en président bénévole, mais pas d'inquiétude, hein, pour un éventuel retour à la vie civile, il reste le propriétaire. Il a par contre complètement laissé les clés de sa fondation Nicolas Hulot, histoire de s'éviter des conflits d'intérêts, notamment parce qu'il y a quelques mécènes douteux. Alors, par exemple, cette fondation, c'est merveilleux, hein, et est en odeur de sainteté avec EDF, puisqu'elle aurait perçu jusqu'à 460 000 euros de chèques de la part d'EDF. Alors ça, c'était en 2012. Depuis, EDF s'est montré moins généreux, hein, puisque c'est 100 000 euros par an.
Oh.
Alors, curieuse découverte, hein, quand on sait que Hulot est en pleine négociation avec EDF à propos de l'exploitation de la centrale de Flamanville, par exemple, dont les défauts de construction de la cuve ne sont plus à démontrer. Hein. Fort heureusement, EDF a eu la clémence de l'État, hein, malgré l'absence totale de nouveaux travaux. En fait, il faudrait complètement la reconstruire, donc ça coûte très très cher. Alors, parmi les autres mécènes sympathiques de la Fondation, il y avait Olia, qui offre généreusement 200 000 euros par an. Vinci, à la pointe de l'écologie, hein, notamment à Notre-Dame-des-Landes, par exemple.
Ils sont pas si mal que ça, finalement, tous ces gens, non?
Bah oui.
Ils aident du lot.
Bouygues, ou encore L'Oréal. Ah. Oh. Voilà, donc une liste de généreux donateurs hyper écolo. Hein, voilà.
Et culot.
Oui, quel hulot, je dirais même.
Ça suffit, la chronique est terminée.
Et c'est pas demain la veille qu'on sortira du nucléaire, apparemment, hein, ni du capitalisme. On est donc rassuré d'avoir un ministre de l'écologie aussi ardent défenseur de la nature et de sa préservation.
Et oui, et on savait depuis La Fontaine qu'une leçon vaut bien un fromage. Mais on apprend ces derniers temps qu'un fromage peut entraîner une sévère correction. Après le SDF emprisonné il y a quelques mois pour avoir dérobé une bûchette de chèvre dans un supermarché, c'est au tour d'un salarié licencié pour avoir mangé du fromage. Dans la future loi travail, les patrons n'auront plus besoin de stipuler la cause d'un licenciement. En attendant, le patronat se dépatouille déjà pas mal avec les rigidités de notre modèle social dépassé. Yannick, employé par la société Honnête pour le nettoyage des vitres d'un hôtel dans le Var, s'est permis de manger un bout de fromage qui allait être jeté. La directrice l'ayant surpris, l'occasion est trop belle pour pouvoir justifier le licenciement d'un salarié qui venait juste de suivre une formation syndicale à la CGT et et comptait se présenter aux élections professionnelles à venir. Ce licenciement révèle une fois de plus l'offensive du patronat pour réprimer tous ceux et celles qui semblent contester son autorité. Non, qui semblent contester son autorité, briser les militants et les équipes syndicales combatives. Tel est le pendant des futures lois antisociales de Macron et de ses amis. Asséner fort et réprimer sauvagement la contestation dans l'œuf. À ces attaques, les travailleurs devront répondre par la solidarité de classe et la grève totale qui renversera les capitalistes à leur impuissance et à leurs conditions de parasites.
Mais au moins, ce qui est bien, c'est qu'avec la loi travail numéro 2, les patrons n'auront même pas à s'encombrer d'un bout de fromage pour nous licencier tranquille. Donc,
voilà, ça, bah voilà, problème résolu.
Et
voilà.
Ils économiseront en piège à fromage.
Quoi. C'est fou qu'ils veulent encore plus faciliter le truc alors que c'est déjà super facile.
Bah, le compter, ça coûte cher.
S'il suffisait d'un fromage.
Et
sans transition
aucune, cirque parlementaire et recomposition.
Ça sent un peu le fromage quand même.
Voilà. Donc les membres des constructifs sont menacés d'exclusion par leur parti, les Républicains. Alors les constructifs,
c'est quoi les constructifs?
C'est donc un petit groupe parlementaire qui s'est formé récemment à la surprise non dissimulée de toute une partie de la presse et du milieu politique. Donc en effet, certains députés, les Républicains, qui voulaient voter la confiance au gouvernement Philippe et éventuellement quelques petites lois, les ordonnances, l'état d'urgence, des choses comme ça, ont décidé de former leur propre groupe et de s'appeler les Constructifs. Donc ces constructifs, guidés par Thierry Soler, souhaitent se rapprocher en fait avec En Marche de manière un petit peu plus franche que ne le voudraient Ciotti ou Wauquiez, qui eux semblent s'orienter plutôt vers une forme de radicalisation finalement de leur position.
C'est pas très constructif ça.
Non, pas très, non.
Moi constructif, on est bien d'accord. J'avais déjà vu ça sur la façade d'un coiffeur. Hein. C'est constructif.
Je sais pas comment je vais reprendre. Alors, de la part des Républicains donc, qui souhaitent couper court finalement à aux activités des constructifs, l'idée est de clarifier un petit peu la ligne, de débroussailler la tignasse pour garder des chances électorales lors des prochaines échéances, parce que leurs électeurs ne comprennent pas grand chose finalement à tous ces frisottis, ces permanentes centristes nouvellement appliquées sur la tête d'Éric Ciotti qui n'a pourtant pas beaucoup de cheveux. Je sais plus du tout où j'en suis, mais toujours est-il qu'on a la sensation qu'on revient à ces deux vieilles droites qui nous manquaient, c'est-à-dire l'UDF et le RPR. Ressort de la tombe Giscard d'Estaing, revient Raymond Barre et Jacques Chirac, tu mens. Le nouveau parti de l'ordre ne se forme donc pas sans heurts. Les intérêts individuels et carriéristes des politiciens bourgeois, donc de la droite, sont parfois plus forts que leurs intérêts de classe et apparemment il y a quelques difficultés à maintenir l'unité quand la promesse des postes, la promesse de...
Non, j'ai entendu dire qu'ils allaient s'appeler RPR, HAIR.
Tant mieux, la conclusion n'était pas terrible. S'il vous plaît, quelqu'un trouve une transition, je sais pas quoi faire de ça.
Tirez pas les cheveux, non.
Alors, vous n'êtes surtout pas sur Radio Canu, hein.
Vous êtes trompé, c'est Radio Courtoisie, c'est pour ça que c'est nul.
Bon bah sans transition, on va vous parler d'un truc moins drôle.
Ouais, moins drôle, mais qui avance tout de même, puisque les résultats de la contre-expertise demandée par la famille d'Adama Traoré viennent de confirmer qu'Adama Traoré est bien mort le 19 juillet 2006, mais bien d'une asphyxie. Un an après l'assassinat par les services de gendarmerie du jeune Beaumontais, la contre-enquête vient contredire les thèses avancées à l'époque par le procureur Yves Janier. Malaise, infection grave, toxicologie, aucune trace de violence significative bien entendu, la version des flics et de leur procureur Janier se délitait au fur et à mesure de l'enquête imposée par la résistance de la famille du jeune homme devant le mensonge et le maquillage de l'assassinat policier. On apprendra des keufs que le corps d'Adama avait dû supporter le poids de 3 agents de police équipés, tandis que le syndrome d'asphyxie révélé par la contre-autopsie commandée par la famille gênait à tel point que plusieurs membres de la famille étaient inquiétés, poursuivis et emprisonnés, comme dans le cas de Bagui, toujours sous les barreaux. Sans la détermination de leur lutte, l'histoire aurait été étouffée immédiatement. Oui, mais voilà, ça traîne et les preuves mystérieusement dissimulées, comme le t-shirt maculé de sang par exemple, font place à d'autres. Comme le témoignage des pompiers selon qui le jeune homme n'a jamais été placé en PLS, position latérale de sécurité, sinon plaqué au sol sur le ventre. Un plaquage ventral réputé très dangereux car empêchant la respiration. À présent, l'on est fixé. La justice d'État a menti, falsifié, réprimé les troublions, emprisonné les frères, menacé les sœurs. Les gendarmes n'ont toujours pas été entendus par l'IGGN. La justice est complice, mais la détermination de la famille, pourtant prise dans un étau, réussit peu à peu à révéler la vérité. La lutte continue pour Adama et les autres jeunes de quartier tombés sous les balles, les coups et les plaquages ventraux.
Maintenant, allons à Montpellier et revenons sur des images qu'on a pu voir. Des images d'un groupe d'hommes qui fait irruption dans un local situé au rez-de-chaussée d'un immeuble. Au cri de « Assez, assez les réfugiés !» Pas de subvention pour financer l'invasion ou encore le bon vieux la France aux Français. Ils s'en prennent violemment au mobilier, à la vaisselle et aux documents de l'association. Alors l'action se passe à Montpellier. Et donc ces fameux agresseurs, enfin ces fameux nazis, fachos, tout ce que vous voulez, continuent à crier sur la vidéo « Les associations pro-immigrés touchent des millions d'euros de subventions ».
Moi-même, je fais partie d'une association pro-immigrés et je tiens à dire que c'est une manne financière quand même assez importante pour moi.
Tu prends presque ta Ferrari d'ailleurs.
C'est ce que prétend le mouvement d'extrême droite, la Ligue du Midi. Béatrice R. Vouet, la présidente de l'association RAIH, Réseau d'accueil et d'insertion de l'Hérault. Non mais... Donc c'est une association d'accueil pour mineurs isolés immigrés, a porté plainte, toujours selon le quotidien. Fort heureusement, comme elle dit, au cours de cette exaction, aucun bénévole n'a été blessé. La députée de la France Insoumise de la deuxième circonscription de l'Hérault, Muriel Résiguier, vient d'adresser au Premier ministre et au ministre de l'Intérieur une demande de dissolution de la Ligue du Midi, selon les termes de l'article L212.1 du Code de la Sécurité Intérieure. Et elle commente en disant qu'elle condamne avec la plus grande fermeté cette exaction contraire aux lois et ainsi qu'aux valeurs humanistes universalistes de notre République.
Celle qui consiste à jarter des immigrés illégalement à la frontière italienne, c'est cette valeur humaniste-là,
incroyable. Non, c'est celle qui consiste à la mettre en camp de concentration.
Ah ouais, ok.
Donc je voilà, demande. La contradiction totale des propos et des actes de notre bonne vieille République, comme on dit. Donc, il faut dire que face à la multiplication d'actes racistes et xénophobes dans notre pays, la réponse est claire. Les fachos se prennent dans un remake de la Seconde Guerre mondiale et la violence est incompréhensible. Qui par ces actes sont les collabos? Qui par ces actes sont les nazis? La France est décidément un pays de fachos. Mais attendons la réponse de Jupiter Macron qui, entre parenthèses, ne semble pas pressé à donner une réponse publique à cet acte qui donne un goût de Seconde Guerre mondiale. Le silence est d'or quand il s'agit d'émigrer, la tête de Turc moderne, le juif du 21e siècle.
Repose en paix, animal.
Quoi?
J'ai pas compris non plus. On est toujours sur Radio Canu.
La plus incompréhensible
de la radio.
La plus droguée des radios.
Donc,
on passe à l'info locale?
Au local, pas besoin des fachos pour harceler les migrants puisque les autorités municipales s'en chargent très bien. À Lyon, la solidarité commence à s'organiser face aux pressions des autorités sur les personnes dont elles sont par ailleurs censées assurer l'hébergement d'urgence. D'une part, dans le 3e arrondissement, il y a une centaine de personnes qui logent sous des tentes ou à la Belle Étoile depuis plusieurs mois et qui sont expulsés de parc en parc par les flics qui, au passage, détruisent leur, enfin, éventrent leurs bagages, etc. Et il y a 70 habitants du 3e arrondissement qui s'organisent en collectif pour leur apporter du soutien et défendre leurs droits. Donc, ils appellent tous ceux qui souhaitent les rejoindre à la collecte de matériel de première nécessité, l'appui administratif et juridique, l'action de masse pour faire bouger les lignes. Et donc, leur contact se trouve sur le site internet agirmigrantlyon.overblog.com. D'autre part, il y a aussi dans le premier arrondissement des familles roms sans domicile qui vivent sur le parking des Chartreux et que les autorités continuent à harceler toujours en coupant l'eau des fontaines du parc d'à côté. L'année dernière, ça avait déjà été fait, ça a été refait cette année. Et maintenant, c'est en embarquant leur voiture à la fourrière sous prétexte d'un problème de carte grise, alors qu'elles ne les utilisent pas pour circuler, mais pour dormir, puisque la ville n'est pas capable de leur trouver un hébergement alors qu'elles sont dehors avec des enfants. Et donc là, pareil, un collectif d'habitants, principalement des voisins, s'est formé. Vous pouvez les contacter à citoyennesconcernées@... C'est une liste mail, mais bon, vous trouverez ça sur Rébellion, donc le harcèlement des Roms du parking des Chartreux.
Et risque de ne pas se terminer tout de suite. Puisque depuis le 17 mai, hein, on attend le jour de la nomination du gouvernement, je le rappelle, les Lyonnais que nous sommes attendent avec grande impatience la démission de Gérard Collomb. Yes. Démission qui n'en finit
blanche,
pas de
blanche.
Pas arriver. Collomb, qui a géré son empire lyonnais d'une main de maître depuis 2001, a du mal à laisser ses places. Et oui, parce que quand on est cumulard, la succession, c'est pas toujours facile. Mais pas d'inquiétude, hein. Collomb continuera bien à siéger à la métropole dont il était président, comme au conseil municipal, quoi qu'il arrive. Donc pour le moment, l'élection du nouveau maire n'a pas eu lieu. Mais ce sera sans surprise Georges Kepenekian, un vieux lieutenant de Collomb qui récupérera la tête de la mairie. Pour ce qui est de la présidence de la métropole, bonne nouvelle, explosion de joie dans le studio. Ça y est, c'est fait, l'omnipotent Collomb a démissionné. Et c'est le fidèle David Kimmelfeld, dauphin aux ordres, qui prend la tête de cette collectivité hybride, créée sur mesure par Collomb lui-même et à la mesure de sa...
Démesure.
De sa démesure, de son ambition. Donc à la demande du chef, hein, il est allé rallier les centristes les plus à droite, hein, pour son élection. On va quand même pas bien à gauche. Ça n'augure donc d'aucun changement. On imagine bien que Kimmelfeld ne va pas rompre avec la politique du très autoritaire Collomb, même si son style est bien plus consensuel. En fait, c'est un espèce de grand mou. Il a d'ailleurs déclaré « Il faut se situer dans la continuité de Gérard Collomb ».
Hein, il faut.
Voilà.
On n'a pas le choix, sinon on se fait buter.
Au menu donc, hein, continuer de faire de la métropole de Lyon une grande marque, Only Lyon, pour ceux qui, qui voudraient acheter.
C'est juste à côté des Mars et des Bounty.
Mais c'est vachement moins bon. Et donc voilà, en investissant dans des infrastructures souvent inutiles, hein, mais qui assurent de maintenir les pauvres loin du centre-ville, continuer de faire de la presqu'île une no-go zone pour les prolétaires que nous sommes, couper l'eau des parcs pour éviter que les personnes à la rue en bénéficient, virer les familles qui squattent ou même qui campent dans des parcs, et s'assurer par contre une belle rente financière, hein, en laissant tout un tas de logements vides appartenant donc à la métropole. Un bien beau programme donc, hein. Bon, on le connaissait déjà, hein. Ça fait quand même 16 ans qu'on se le tape. Alors quelques éléments de bio, hein, sur Kimmelfeld, mais on peut continuer de l'appeler Collomb, je pense que ça ne changera pas grand chose. Donc en bon macroniste, c'est un entrepreneur, il est adhérent au PS depuis les années 90, wow. Le renouvellement, tout ça. Il a cofondé une boîte de transport à Lyon et il se consacre depuis quelques années uniquement à la politique. Il était maire du 4e depuis 2011. Il est à la tête de la Fédération du Rhône du PS jusqu'à son ultime traîtrise à la suite de GG. Autant dire donc que le changement, c'est pas du tout maintenant. On souhaite quand même au revoir à Gérard Collomb.
Qui est un peu notre oufouette Boigny à nous.
Au revoir papa.
Donc, restons au local. Et maintenant, séquence humour avec une petite séquence actualité très rigolote. Dans la famille police, je veux le béni oui-oui. Histoire de la bêtise policière, encore une. Alors, c'est lors d'une patrouille de surveillance que des policiers municipaux lyonnais ont fait une découverte stupéfiante. Là, dans l'enceinte de l'ancien marché de Gros, Lyon 2, les agents poussent un portail entrouvert alors qu'il était habituellement fermé. Ils tombent tout à cras sur une belle plantation, un champ de plants de cannabis environ 140 mètres carrés.
Wow.
Imaginez la surprise de ces braves Pandores, plus habitués à verbaliser les voitures mal garées et à recompter le score de la dernière belote qu'à se lancer dans des enquêtes sur le grand banditisme ou les trafiquants de stupéfiants. Imaginez donc encore leur joie quand, posant fièrement devant leur incroyable prise, ils imaginaient les promotions, montées en grade et autres augmentations de salaire qui allaient, à n'en pas douter, venir féliciter un tel travail.
Bah, le casse du siècle. Hein,
voilà, exactement. Lorsque les policiers pénètrent sur les lieux, celui-ci est désert. Le progrès, continué sur le temps quasi lyrique, précise qu'il ne trouve personne sur les lieux en train d'arroser, de biner ou de fumer. Conscient qu'il se trouve face à une affaire dans l'ampleur qui les dépasse, les policiers municipaux se rapprochent donc du groupe d'enquête anti-drogue.
Mais qu'est-ce qui ne dépasse pas un policier municipal ? Là est la question.
On se demande. GAAD, oui, celui-ci leur donne la consigne d'arracher les plants de cannabis avant de les transporter au commissariat du 9e arrondissement de Lyon. Ce sont alors
des... Pour les freins séchés.
Voilà. Pour leur propre consommation.
Aucun talent en transpotage, c'est vraiment scandaleux.
Ce sont alors des centaines de plants qui sont détruits. Samedi 8 juillet, les organisateurs de la Biennale d'architecture devaient se retrouver pour une fête sur l'œuvre désormais détruite. Désormais privés de terrain de jeu, ils sont furieux que l'enquête ait été expédiée. Ce n'est pas pourtant pas faute d'avoir mis les meilleurs limiers de la ville sur l'affaire. L'histoire aurait puis s'arrêter là, sauf que les plants détruits n'étaient pas du cannabis, mais du chanvre à 0%, c'est-à-dire ne contenant aucune substance psychoactive. La plantation, probablement réalisée sur un site appartement à la mairie de Lyon, s'inscrivait dans le cadre d'une expérimentation de la Biennale d'architecture, l'opération artistique qui incluait aussi la présence d'orge et de lin était baptisée air détente. Air d'attente plutôt. Et de détente apparemment. Plutôt qu'une importante saisie de stupéfiants, les policiers municipaux ont donc détruit une œuvre d'art et leur brillante enquête se transforme en fiasco total. Selon Lyon Mag, pour limiter la casse en matière d'image, les policiers se sont trouvés une version officielle d'une crédibilité à toute épreuve, comme d'habitude. Ainsi, ils étaient au courant qu'il s'agissait de chambres, mais les consignes qu'ils ont reçues étaient de même d'éradiquer la plantation. Prise à défaut, les flics font toujours référence aux ordres. C'est même ça, même à ça qu'on les reconnaît. Et c'est un article que vous pouvez retrouver sur Rebellion.
Et c'est peut-être après une contestation de la part des flics contre l'art contemporain, allez savoir quoi.
C'est quand même le ready-made le plus piteux que j'ai jamais vu.
Ou alors, ouais. Ou alors contre le chanvre.
Et pour les, et pour les choses, choses plus sérieuses.
Il y a quelqu'un d'autre qui veut parler parce que j'ai réussi à comprendre quelques mots là.
Et pour les choses plus sérieuses, on vous donne rendez-vous dans quelques. Dans une grosse heure pour Cannabis Circus.
C'est ça, avec on va parler de vraies plantes cette fois. Alors bah, on va passer au dossier du jour maintenant. Donc,
il va durer quelques secondes hein, quelques finalement, jours. Vu l'heure qu'il est.
Ce qui est une bonne chose.
Ce qui est une bonne chose vu comment a été préparé. Pour mais bon,
toi,
on ne sait jamais.
Carré, mais bon.
Mais écoutez, donc on va vous parler, bah, vu que ça approche.
Je sens qu'on va déborder puisqu'il n'y a pas la
Ouais, ouais, mais on va éviter de trop endormir nos auditeurs, mais on va essayer de déborder, on va prendre quelques minutes après quand même. Et pour que le copain puisse faire son dossier correctement.
Bossé, moi. Même Edith Piaf là.
Mais on va démarrer donc.
Arrête de spoiler.
Oh, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates là, la lanterne. Oh, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates, on les prendra. La 300 ans qui nous promettent qu'on va nous accorder du pain. La 300 ans qui donne des fêtes et qui entretiennent des cadins. La 300 ans qu'on nous écrase, assez de mensonges et de phrases, on ne veut plus mourir de faim. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates, on les pendra. La 300 ans qui font la guerre au son des fifres et des tambours.
sang crevait d'une misère. Ça ne pouvait pas durer toujours. La 300 ans qui prennent nos hommes, qui nous traitent comme des bêtes de somme. Ça ne pouvait pas durer toujours. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates on les pendra. Le châtiment pour vous s'apprête, car le peuple reprend ses droits. Vous vous êtes bien payés nos têtes, c'en est fini, messieurs les rois. Il ne faut plus compter sur les nôtres, on va s'offrir maintenant les vôtres, car c'est nous qui faisons la loi. Ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates on les pendra. Ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates on les pendra. Ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates on les pendra.
Alors pour ceux qui n'avaient pas compris, on
ça ira, ça ira,
ça ira, ça ira.
Et les aristocrates, on les pendra sur.
Mais non, laissez-les tranquilles, les pauvres. Mais non. Bon, donc le sujet du.
On les pendra.
Mais non, pacifiste. Voilà.
Le comité de censure se réunit immédiatement. On va remettre les bandes continues quelques secondes.
On pend un camarade et après on revient.
C'est nous qu'on fait la loi, on a dit.
Ça promet. Non, donc le dossier du jour est donc sur le 14 juillet. Et on va laisser notre camarade que l'on a fini de picoler, qui va peut-être pouvoir commencer à nous en parler.
Non, justement, on va faire une pause avant.
On va faire une pause avant.
Il y a des choses plus intéressantes que le 14 juillet.
Commençons par la pause.
Notamment, un militant de nos camarades, Cédric, assure grave et dont on va vous parler un petit peu.
On va faire une petite pause improvisée parce que le camarade en charge du dossier a des pudeurs de gazelle.
C'est
comme
ça.
Comme dirait Jean-Luc. Non, juste pour info, on parlait tout à l'heure des migrants. J'ai évoqué les reconduites illégales à la frontière vers l'Italie. En fait, c'est une vidéo du collectif La Roya Citoyenne, donc, notamment dans lequel est Cédric Héroux, dont on a parlé à plusieurs reprises à l'antenne. C'est un collectif donc, qui a publié une vidéo la semaine dernière qui montre qu'en fait, la police fait des expulsions illégales dans les gares. En fait. Ils récupèrent les migrants dans les gares frontalières. Ils récupèrent les migrants, les gardent quelques heures dans l'enceinte des gares pour faire les contrôles d'identité, tout ça, sans leur notifier aucun de leurs droits. C'est des rétentions totalement illégales.
C'est contraire aux accords internationaux.
D'autant qu'ils sont censés informer. Là, en l'occurrence, la vidéo qui est sortie, c'est des mineurs. Donc, ils sont censés de toute façon informer des procédures possibles pour les migrants dans une langue qu'ils sont capables de comprendre. Ce qu'ils font du coup pas du tout, puisqu'ils se contentent simplement de remettre les migrants dans des terrains qui retournent en Italie. Quoi. Et ce, totalement en dehors du cadre de la loi. C'est extrêmement inquiétant. Je pense que il faut dès maintenant essayer de s'organiser contre ça, parce qu'en réalité, si on signe un blanc-seing au keuf pour faire ce genre de choses, on n'a pas fini, quoi.
D'ailleurs, il y a eu une tentative d'action en justice par plusieurs associations au Conseil d'État pour faire condamner de manière juridique
ces crimes.
L'illégalité dans laquelle agit la police à la frontière franco-italienne. Et le Conseil d'État a rejeté la requête de plusieurs associations qui étaient pourtant très bien argumentées.
Alors que c'est totalement contraire au droit international.
Mais
en fait, c'est
de toute façon, même la rétention illégale, c'est quand même. Mais ce que montre la vidéo assez bien, c'est que les keufs, ils sont tellement convaincus justement d'être dans leur bon droit qu'ils donnent les informations de manière tout à fait spontanée aux militants qui les filment et qui leur posent des questions parce qu'ils sont persuadés qu'ils ont le droit de faire ça. Quoi, ce qui est tout à fait.
Mais c'est la suite logique des dispositifs installés depuis presque une dizaine d'années maintenant, systématiquement dans toutes les gares de la Côte d'Azur, de Vintimille jusqu'à Toulon, sans doute, en tout cas dans les Alpes-Maritimes, j'en suis sûr. Savoir en permanence des compagnies de CRS, en permanence la police aux frontières, les agents SNCF, etc. Et effectivement, il y a. L'expulsion directe et illégale semble effectivement un aboutissement de choses qui se font depuis des années. Quoi.
Et tu viens de dire que les flics sont convaincus, et effectivement, dans convaincu, il y a con et il y a vaincu bientôt.
Ouh là là.
Mon Dieu, le niveau.
Tout ça pour ne pas parler du 14 juillet.
C'est vrai ça. Est-ce qu'on n'écouterait pas la Carmagnole pour se mettre en jambe ou est-ce qu'on se lance directement?
Non, on se lance directement.
On se jette. On voulait vous parler longuement du 14 juillet pour conclure que les défis militaires, c'est vraiment de la merde.
Au cours d'un dossier documenté, argumenté, fignolé.
Le bruit des bottes, non, c'est nul.
Oui, et puis si c'est pour faire semblant de rendre un hommage à la Révolution française, on voulait rappeler que
ceux qui ne font les révolutions qu'à moitié se creusent leur tombeau, il y a un truc comme ça, non?
Oui, ben que si c'est pour terminer en 2017 à recevoir Donald Trump
sur
les Champs-Élysées, ça
valait pas le coup.
Ouais, ça valait pas franchement le coup.
Bah surtout qu'en Hollande, c'est la patrie des droits de l'homme aussi, et puis ils se sont contentés de faire l'hydroponie. Hein, donc,
vous êtes bien sur
Radio Canu et Cannabis Circus, c'est dans une heure.
Hein. Désolé camarade si on empiète un peu sur ton émission ce soir. Hein. Si tu nous écoutes.
Voilà. Et donc après vous avoir longuement parlé du 14 juillet, on peut enfin passer à l'agenda.
À la chanson, non?
À la chanson, non, parce qu'on a quand même, on a trouvé un petit bijou quand même sur Internet.
Pas un grand artiste.
Un grand poète, comme j'ai entendu au cours d'un enterrement récemment, un grand poète français. Attention. Donc notre cher et grand poète français qui a ému des générations de Français et de Françaises.
Et dont l'engagement révolutionnaire ne fait aucun doute.
Et bien connu pour ça. Que c'est vrai, messieurs, dames. Eh bien, écoutez, on va vous laisser donc être le grand Johnny Hallyday.
Madame Veto avait promis de faire égorger tout Paris. Madame Veto avait promis de faire égorger tout Paris. Mais son coup a manqué grâce à nos canonniers. Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son, canon. Monsieur Veto avait promis d'être fidèle à sa patrie. Monsieur Veto avait promis d'être fidèle à sa patrie. Mais il y a manqué, ne faisons plus quartier. Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon. Antoinette avait résolu de nous faire tomber sur le cul. Antoinette avait résolu de nous faire tomber sur le cul. Mais son coup a manqué, elle a le nez cassé. Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon.
Et maintenant, l'international par Eddie Mitchell.
Bon, plus sérieux, on a une annonce à vous faire.
On a des annonces à vous faire.
Ouais, il y en a plein.
Il y a plein de choses. Ouais. Un agenda.
Parce que c'est l'heure traditionnelle. Vous les enfants.
Agenda.
Yeah. Agenda.
Oh, wow. Et donc, demain à 10h sur les ondes de Radio Canu, il y a la série Rock Against Police à 10h, donc comme tous les mardis hein, pendant l'été. Et c'est une chouette série documentaire. Ton conseil, l'écoute attentive.
Non, c'est un ordre. Écoutez.
Il y a un site internet où vous pouvez retrouver les anciens épisodes que vous avez loupés. Vous tapez le Rock Against Police et normalement vous tombez facilement dessus.
Personne n'a loupé les anciens épisodes.
Mais bien sûr, mais on sait jamais. Pour les faire écouter à des amis, quoi, on sait jamais.
Et demain mardi également, à 14h, la psychiatrie de Saint-Jean-de-Dieu débraye contre l'austérité et les moyens de plus en plus faibles et qui sont annoncés. Et donc, on vous invite à les rejoindre. Donc, ça se passe.
C'est à 14h devant le. En fait, il y a une unité, l'unité Erasme de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, qui va tout simplement fermer dans les deux prochaines années. Et du coup, voilà, les soignants, les salariés se mobilisent contre cette fermeture annoncée, hein, qui. on a vu des mobilisations ces derniers temps autour de la psychiatrie qui semble être un peu quand même le parent pauvre de la santé, qui elle-même est le parent pauvre
du service public. Le service public qui est lui-même le parent pauvre de.
Et il y a, d'ailleurs, il y a quelques semaines, il y avait Vinatier qui se mobilisait aussi et qui se remobilise à la rentrée parce que vraiment, ça va être vraiment très, très trash pour eux, pour toute la psychiatrie.
Voilà, je pense que c'est important de leur montrer qu'ils ne sont pas seuls et que la question de la santé, elle nous concerne.